Le week-end dernier à Bouraille, des gendarmes ont été agressés. Ils tentaient d'interpeller un motard tombé au sol après un refus d'obtempérer lorsqu'ils ont été pris à partie par plusieurs personnes. Reprise de la baignade sur la zone surveillée de la baie des Citrons, les baigneurs sont plutôt rassurés par la pose d'un filet provisoire. Lisez se penche sur le choix des études supérieures des bacheliers calédoniens. Avant la crise Covid, ils étaient de plus en plus nombreux à partir en métropole. La mort de la reine du rock suscite des hommages dans le monde entier. Tina Turner s'est éteinte en Suisse, elle avait 83 ans. En sport, 6 Français ont passé le deuxième tour du tournoi de qualification à Roland-Garros. Il leur reste un match pour rejoindre le tableau final. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Comment la Calédonie s'organise-t-elle pour valoriser les matières organiques? Qu'est-ce qui existe et que reste-t-il à faire? Nous ferons le point sur cette filière dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Juste après ce journal, nous serons en compagnie de Bastien Morvan, directeur adjoint de la 3DT de la province sud, Mathieu Naturel, agriculteur et membre du réseau Repair qui promeut une agriculture raisonnable, Flavien Pierson, le président du cluster Valorga, et Emmanuel Récamier, le directeur du SIGN, le SIGN. À propos des déchets, notez que le SIVM Sud, le syndicat intercommunal à vocation multiple, organise aujourd'hui sa première journée de concertation citoyenne sur le thème du réemploi des déchets et de la prévention. Avec le soutien de la province sud et de l'ADEME, le SIVM Sud déploie son plan intercommunal de prévention et de traitement des déchets et livre un état des lieux complet sur la gestion des déchets sur les communes de Bouloupari, Bouraille, Lafoy, Moindou, Farino, Saraméa et Thio qui produisent chaque année 5000 tonnes de déchets. Écoutez Brice Régent, le directeur du SIVM Sud.
On traite sur 4 déchetteries, Bouloupari, Thio, Bouraille et Lafoy, l'ensemble de ces déchets par filière avec des bennes dédiées et des problématiques diverses en fonction des filières. Donc entre les déchets organiques, le textile, les déchets ferreux, les ordures ménagères. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut au maximum réduire les volumes qu'on traite. Et l'enjeu de cette journée, c'est réellement d'optimiser à la fois ce qu'on peut traiter en local, les organiques notamment. Si aujourd'hui, les Calédoniens sur nos communes mettaient leurs déchets organiques dans les poubelles, c'est un gain de 8 à 10 millions par an. Pour nos communes. La vente directe du producteur au consommateur, la vente en vrac, ça fait partie des pistes. La réalité, c'est qu'un foyer calédonien fabrique plus de déchets qu'un foyer métropolitain. Donc il y a une marge de progression, mais tous les ingrédients semblent réunis pour que les choses avancent dans le bon sens.
L'événement se tient donc au centre du village de Bouloupari et proposera jusqu'à 16h cet après-midi des ateliers sur la prévention des déchets organiques, sur leur réemploi ou encore sur la vente en vrac et les circuits courts. Toujours à propos de traitement des déchets, la SLN annonce s'être associée avec la commune de Vaux, à laquelle elle va livrer 4000 tonnes de scories pour la construction d'une route transversale. Les scories de ferro-nickel font l'objet de recherches depuis 40 ans et leur transformation, notamment en granules, peut aboutir à de nombreuses utilisations. L'effet divers avec cette nouvelle affaire dont je vous parlais en titre. Des gendarmes ont été victimes d'une agression à Bouraille, Nicolas Legrand.
Oui, ces faits remontent à la nuit de vendredi à samedi dernier. Après un refus d'obtempérer, un motard a fait une chute à la sortie nord du village. Et alors que les gendarmes s'apprêtaient à lui porter assistance et l'interpeller, ils ont été pris à partie par plusieurs individus. Alors face à la menace, ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène et regagner leur véhicule par mesure de sécurité. Cette scène a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, le motard ainsi qu'un individu auraient été interpellés. Les autres agresseurs sont toujours en cours d'identification et activement recherchés. Dans un communiqué publié ce matin, le député de la seconde circonscription, Nicolas Metzdorf, condamne ces débordements et apporte tout son soutien aux gendarmes. Je cite « La force doit rester à la loi ».
Une affaire sur laquelle le procureur de la République doit communiquer dans la journée, ainsi que sur l'affaire du corps retrouvé à Ouégoua après le suicide d'un homme hier. La baignade est de nouveau autorisée ce matin, baie des Citrons. Elle se fait uniquement sur la zone surveillée. Et les baigneurs qui se sont présentés ce matin étaient plutôt rassurés par le filet provisoire qui a été installé par la mairie en attendant la pose définitive d'une barrière avant la fin de l'année.
Pour le provisoire, je trouve ça excellent. C'est vraiment très bien. C'est un bon compromis.
Le filet provisoire est une très bonne chose parce qu'il permet déjà de sécuriser et de rassurer les gens qui viennent se baigner là sur leur temps de loisir.
C'est un plus pour notre sécurité, puisque moi j'ai l'intention de revenir pendant toute la période d'ouverture. C'est nécessaire, c'est très bien.
C'est déjà pas mal d'avoir mis un petit filet comme ça avec la sécurité.
C'est rassurant, puis les gens, ça leur permet de pouvoir se baigner en toute sécurité, voilà. Et je trouve que c'est une bonne initiative.
C'est mon premier bain depuis 3 mois, donc j'apprécie énormément de revenir.
Et hormis la zone surveillée de la baie des Citrons, je vous rappelle que la baignade reste interdite sur les autres plages de la commune.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Êtes-vous rassuré par la pose d'un filet provisoire dans la zone surveillée de la baie des Citrons ? Si cela vous rassure, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 81% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne faut pas limiter à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la Save Express. Ils sont 19% à penser à l'inverse qu'il faut limiter la vitesse à 90 km/h. Toujours dans l'actualité en Calédonie, le président de la province des îles accuse l'État de vouloir discréditer sa collectivité après sa convocation devant le tribunal correctionnel, Nicolas.
Oui, Jean-François, le procès a été reporté, mais le président de la province des îles saisit l'occasion pour relever, dans un communiqué, que le contrôle de légalité par les services de l'État en vue de vérifier la conformité des marchés publics et limiter les risques de contentieux s'effectue de façon aléatoire. Cela nous laisse dubitatif, écrit Jacques Lallier, qui n'hésite pas à parler d'acharnement judiciaire qui s'apparente, je cite, à des stratégies les plus souvent utilisées pour réduire au silence et intimider les leaders indépendantistes. Le président de la province des îles égratigne au passage la télévision de service public en affirmant que les appareils idéologiques d'État instrumentalisent la vérité afin d'influencer l'opinion publique. Par exemple, précise-t-il, les derniers étalages médiatiques me concernant ne sont que procès d'intention. Fin de citation de ce communiqué de Jacques Lallier.
En bref, le dossier de la clinique Quindomania renvoyé au 6 juillet. Ce matin, le tribunal de commerce devait étudier la requête de la mandataire judiciaire Marie-Laure Gasteau qui demande le placement en redressement judiciaire de l'établissement de Nouville. Chaque partie a fourni des éléments complémentaires ce matin et le dossier sera donc examiné début juillet. En attendant, la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la clinique se poursuit. Et puis, le nouveau vice-recteur a été nommé. Didier Vindatich prend ses fonctions aujourd'hui pour succéder à Éric Rosaire. Il a été nommé par décret du président de la République pour une durée de 2 ans. 11h37, une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille ? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
En route pour les promos chez Calais Pneus. Vous êtes propriétaire d'un véhicule utilitaire ou encore d'une camionnette? Alors n'attendez plus. Jusqu'au 31 mai, dans vos 3 centres Calais Pneus, bénéficiez de 20% de remise sur tous les pneus Agilis 3 Michelin. Offre valable pour tous les berlingots H1, Master, Daily, Partner, Ducato ou encore Sprinter. Calais Pneus, c'est votre représentant Michelin à votre service. Offre valable dans vos 3 centres Calais Pneus au PK4, à Ducos ou encore à Connay. Plus d'informations sur la page Facebook Calais Pneus.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'InfoMag, Jean-François Baudin.
L'ISEE a publié une synthèse sur les études supérieures en Nouvelle-Calédonie. L'Institut de la Statistique s'est penché, Nicolas, sur les choix des bacheliers calédoniens en 2021.
De plus en plus de bacheliers calédoniens poursuivent en effet leurs études dans le supérieur, des chiffres en constante augmentation depuis plusieurs années. 66% des néo-bacheliers de 2020 ont entamé des études supérieures en 2021, contre 62% l'année précédente. 9 jeunes sur 10 titulaires d'un bac général se sont inscrits dans le supérieur contre 8 sur 10 un an plus tôt. Mais la vraie particularité de 2021, c'est surtout que près de 2/3 d'entre eux ont continué leur cursus sur le territoire. Sur les 7360 étudiants, 4570 étaient inscrits dans des établissements calédoniens. Conséquence directe de la crise sanitaire en métropole qui a fait revenir un certain nombre d'étudiants et contraint les néo-bacheliers à rester en Nouvelle-Calédonie. Dans le détail des cursus, en 2021, 5360 étudiants calédoniens préparaient un diplôme de type LMD, licence, master, doctorat. Le nombre de diplômés dans ces cursus a même augmenté de 49% en l'espace de 10 ans. Depuis 2016, 5 à 600 bacheliers obtiennent une licence chaque année. Plus de la moitié sont diplômés de l'UNC ou de l'EGC. Les filières de droit, de sciences économiques ou AES sont les plus enseignées, comme les langues, les lettres, les sciences humaines et les arts. Et environ 400 masters sont délivrés chaque année sur le territoire, toujours dans les mêmes filières. Signalons enfin qu'en 10 ans, seule une petite centaine d'étudiants calédoniens a validé un doctorat.
L'intersyndicale des retraités est en colère. Face à la presse ce matin, elle a dénoncé l'attentisme des élus face aux revendications portées par les différents syndicats. Mais cette fois-ci, Gilles Ménage, les retraités veulent passer à l'action.
Indexation des retraites sur l'inflation, baisse du prix des carburants et des transports pour les retraités ou encore mise en place d'un vrai statut du retraité. Sur toutes ces questions, l'intersyndicale estime ne pas avoir eu de réponse concrète de la part des élus. Chacun reconnaît que la situation est difficile, mais en attendant, il ne se passe rien, relève Bruno Ewea, le porte-parole de l'intersyndicale.
Il y a des gens qui ont des postes au gouvernement ou même ailleurs, à la province ou même dans les mairies ou autres. Tout le monde fait ce constat. Tout le monde sait que les retraités ont du mal dans ce pays. Mais on sait où c'est des fois qu'il faut faire quelque chose, mais on ne le fait pas. On ne prend pas les bonnes décisions, ou en tout cas, on n'en prend pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est bien ces gens-là qui sont aux manettes et qui sont à la direction pour pouvoir prendre des décisions. C'est bien nous aussi, peut-être, qui les avons mis là. Mais en attendant, il faudrait peut-être qu'ils fassent des choses. On a encore fait des courriers pour se faire rencontrer, en tout cas, par le président du gouvernement, le président du Congrès. Je trouve ça déplorable qu'on ne trouve pas 5 minutes pour voir des retraités. En tout cas, au moins les entendre, même si on n'arrive pas à négocier tout de suite quelque chose, mais au moins qu'on essaye de faire quelque chose. Mais je ne sais pas, je comprends pas. Ou alors, on va peut-être nous appeler quand il y aura les provinciales. On va peut-être y aller tout seul, nous, aux provinciales, peut-être. Mais bon, voilà, c'est un truc de fou, quoi.
Alors qu'en juin 2022, les syndicats de retraités avaient renoncé à un projet de manifestation dans les rues de Nouméa et qu'ils avaient été alors reçus par les groupes politiques du Congrès, l'intersyndicale constate que depuis, il ne s'est rien passé du tout et que leurs courriers sont restés sans réponse. Elle a donc bien l'intention de descendre dans la rue dans les semaines qui viennent. Quant à la caisse locale de retraite, elle a écrit au procureur de la République pour lui signaler que la mairie de Poindimier ne payait plus ses cotisations patronales ni salariales, ce qui met en danger les fonctionnaires, explique le secrétaire général de la CLR, Dominique Frontier.
Jusqu'à présent, on n'avait que le CHT et le CHN de Conné, mais maintenant, il y a plein de collectivités. Et la plus importante, c'est la mairie de Poindimier, qui depuis juin 2022 ne nous a pas reversé les cotisations et patronales et salariales, alors qu'elle les a retirées des salaires des fonctionnaires. Alors ça a une conséquence dramatique, c'est qu'il y a un fonctionnaire qui vient à décéder, comme il n'est pas à jour de cotisation, ils ne le savent pas les fonctionnaires, eh bien, il décède, son veuf ou sa veuve ne touchera pas la pension de reversion parce qu'il n'est pas à jour de cotisation. Voilà l'exemple flagrant.
Les syndicats de retraités qui appellent par ailleurs leurs adhérents, qui représentent 14% de la population calédonienne, à se mobiliser, notamment dans la perspective d'élections provinciales en 2024. Une amicale des retraités des petites communes rurales va être constituée dans ce sens.
Parlons maintenant du dugong. Cette espèce emblématique de Nouvelle-Calédonie qui est en voie de disparition depuis ces dernières années. Et pour mieux la protéger, la province sud a lancé l'année du dugong, Liana Colombo.
Agir en sensibilisant la population à la préservation et à la protection de cette espèce protégée. C'est l'objectif de la province sud qui réfléchit déjà depuis une dizaine d'années à un plan d'action. Plusieurs axes de réflexion ont donc été établis pour la période 2023-2024. Les explications de Bastien Morvan, directeur adjoint de la 3DT, la direction du développement durable des territoires de la province sud.
Un axe acquisition de connaissances pour mieux comprendre où en est la population du dugong et les différentes pressions qu'elle subit. Un axe sensibilisation, mieux informer les populations sur les pressions que subissent ces dugongs, pressions humaines. On parlait de prises accidentelles dans les filets, de collisions avec des bateaux, de braconnage. Donc c'est important d'expliquer aux populations l'impact que les comportements humains ont sur les populations du dugong. Et puis également un volet contrôle, bien évidemment, même si ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est vraiment de que les populations se saisissent, s'approprient l'importance de maintenir ces populations. Et on espère que cette prise de conscience va s'opérer pour que, collectivement, j'ai envie de dire, on puisse avoir un impact fort sur le maintien de ces populations.
En 2003, 2000 dugongs pouvaient être observés dans les eaux calédoniennes, alors qu'aujourd'hui, il n'en reste plus que 750. Une catastrophe pour les protecteurs des océans. Une seule solution pour y faire face, faire connaître au mieux les dugongs. C'est une des missions de l'Aquarium des Lagons qui organise ce soir dès 18h une nocturne. Écoutez Éric Baquès, directeur de l'Aquarium.
La mission de l'aquarium dans ce vaste sujet qui est la protection des espèces, c'est la sensibilisation du grand public et en particulier la sensibilisation des plus jeunes. C'est là toute notre plus-value puisqu'on est capable avec notre réseau d'animateurs et de bénévoles que je salue au passage, d'organiser des stands d'animation toujours très ludiques, toujours très amusants, mais qui permettent de faire passer les bons messages en matière de protection et de sensibilisation des espèces. Ce soir, donc rendez-vous à 18h à l'aquarium et on vous proposera effectivement de participer à cette nocturne et puis d'en savoir beaucoup plus sur cette espèce méconnue mais qui est notre dernière sirène en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut sauver nos sirènes.
Ce samedi, à l'occasion de la journée internationale du dugong, la province sud s'est associée avec l'aquarium et Sud Tourisme pour organiser des activités. Pour cela, rendez-vous à l'office de tourisme de Bouraille à Deva de 8h à 16h.
Radio Rythme Bleu, 11h45.
L'AVH organise ses traditionnels repas à l'aveugle ce soir et demain. Un rendez-vous qui rencontre toujours un franc succès. Toutes les places ont d'ailleurs été réservées. Il faut dire que ces repas les yeux bandés sont une expérience déroutante qui permet aussi de prendre conscience de la cécité. Virginie Antoine, la coordinatrice de l'association Valentin Ahoui.
C'est une expérience sensorielle ludique, mais c'est aussi une expérience humaine. Donc on allie les deux et on a toujours des très bons retours. C'est déroutant, c'est un développement des autres sens et puis c'est une compréhension du monde des personnes aveugles. Alors voilà, notre rôle c'est de pouvoir faire des sensibilisations, de pouvoir travailler avec tout le monde et les entreprises puisque aussi dans nos missions on accompagne les personnes à l'insertion professionnelle, à l'adaptation de postes de travail et donc ces rencontres, ces échanges lors de repas à l'aveugle c'est très intéressant parce que ça leur permet de s'ouvrir à une question peut-être que certains ne s'étaient pas posées et puis ça devient des ambassadrices et des ambassadeurs auprès de la population puisque nous connaissant un peu plus le handicap, ils peuvent orienter les personnes de leur entourage ou qu'ils rencontrent vers l'association pour qu'on puisse les accompagner s'ils ont besoin et leur proposer comme la canne blanche parce que c'est quand même le matériel indispensable pour se déplacer.
Virginie Antoine, la coordinatrice de l'AVH qui était donc notre invitée ce matin, vous pouvez contacter l'association si vous le souhaitez sur le Facebook Association Valentin Ahoui Nouméa. Et puis signalons que dans le cadre de la semaine handicapable du Mont d'Or, une matinée de sensibilisation au handicap moteur était organisée au collège de Boulary. Cet après-midi, les élèves du lycée Saint-Pierre-Chanel travailleront sur la question du handicap et de la violence, tandis que les élèves de Yaoué participeront, eux, à des ateliers bien-être. Le salon des artisans d'art et son marché Fête des Mères fait son grand retour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, chaque jour de 9h à 18h en continu, une quarantaine de stands sont proposés à la Maison des artisans de Nouville. Textiles, bijoux, cosmétiques, maroquinerie et bien d'autres choses. Un large choix de créations de qualité, éthiques, responsables et locales. Immersion dans ce salon avec Stella, Marion, Amélie et Christelle.
Je suis à la Chambre des métiers pour vendre mes produits polynésiens, mes robes que je confectionne. On a toujours nos robes polynésiennes qui sont vraiment très évasées pour les mamans qui veulent aussi se faire plaisir. La polynésienne, elle aime bien les couleurs, mais on essaie de leur trouver des bons motifs, des belles couleurs que la population aime ici, sans des produits locaux.
Je dessine un peu sur tout support et de là, je fais des produits dérivés. Alors, on trouve autant des œuvres originales, des grosses pièces, que des magnettes, des carnets, des cartes postales de mes dessins. Vu que toutes les mamans sont uniques, il y a quelques belles pièces uniques spéciales que j'ai réservées pour le salon.
Je propose des bijoux avec du sable et des coquillages de la Nouvelle-Calédonie pour mettre cette île en valeur. C'est des bijoux qui sont uniques, qui sont tout légers. Et là, c'est pour nos mamans, pour faire plaisir à nos mamans.
Là, j'ai un double stand Terre et moi, parce que moi je fais de la céramique, donc là principalement des bijoux pour ce week-end et des bougies en cire naturelle. Et mon mari qui fait du bois travaillé et gravé. C'est un marché qui est connu depuis longtemps, un salon qui a fait ses preuves, donc on devrait avoir plein de visiteurs au moins pour le week-end.
Ce salon des artisans d'art à l'occasion de la fête des mères est donc ouvert depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche 18h. Un mot encore de l'actualité en Calédonie pour vous signaler que l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli présidera le 25e Festival du cinéma de la foi du 30 juin au 9 juillet. Elle est actuellement en compétition à Cannes Première avec son 6e long métrage « L'amour et les forêts », adapté du roman éponyme d'Éric Reinhardt avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Valérie Donzelli s'était particulièrement distinguée en 2011 avec son film « La guerre est déclarée ». 11h49, une pause. Dans un instant, ce sera l'actualité à l'étranger en métropole et nous évoquerons évidemment la disparition de la reine du rock, Tina Turner. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Encore quelques jours avant de découvrir le nouveau jeu SMS RRB. Et il y aura de quoi faire des heureux tout au long de l'année. Besoin de faire ses courses ou du shopping, d'électroménager ou d'outillage, d'une voiturette ou de partir en vacances? RRB réalisera vos rêves les plus fous. Enfin, dans la limite du raisonnable. Alors restez à l'écoute, on vous dira tout dans quelques jours. On vous prépare de belles surprises sur RRB.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Sa crinière blonde, sa voix inimitable et une incroyable présence sur scène, Tina Turner, la reine du rock, s'est donc éteinte cette nuit pour nous en Suisse, elle avait 83 ans. Tout le monde a en tête au moins l'un des tubes qui l'ont rendue célèbre et fait accéder au rang de superstar. Retour sur une carrière hors norme avec Lucie de Pertuis.
De son vrai nom, Anna Mae Bullock, elle naît en 1939 dans le Tennessee. Pendant une enfance difficile, elle trouve refuge dans la musique et fait ses armes dans la chorale de son église. À 18 ans, elle rencontre le guitariste et chanteur Ike Turner, qui l'engage en tant que choriste. Ensemble, ils deviennent un duo à succès sous le nom de Ike and Tina Turner. Ils se marient en 1962. Le groupe enflamme les salles de concert avec des tubes survoltés comme Proud Mary. Des années plus tard, la chanteuse confiera avoir été battue par Ike Turner, qu'elle quitte en 1976 avant de se lancer dans une carrière solo. Après des débuts compliqués, Tina Turner décolle au milieu des années 80 avec ce titre. Love Got To Do With It sur l'album Private Dancer. Succès phénoménal vendu à 11 millions d'exemplaires. Tina Turner, c'est aussi une incroyable showgirl. Et celui qui en parle le mieux, c'est le spécialiste du rock, Philippe Manœuvre.
Tina Turner, surnom la tigresse, la lionne, c'était une performeuse incroyable. C'était à la fois une danseuse, elle était gymnique quoi, sur scène. Elle dépotait, elle arrivait vraiment à stupéfier les foules avec ses talons aiguilles et ses petites robes scintillantes. Elle a fait rêver et fantasmer des millions de gens. C'était James Brown femme, voilà.
Aujourd'hui, le monde de la musique pleure une légende qui, en 50 ans de carrière, a écoulé plus de 100 millions d'albums à travers le monde.
Lucie de Pertuis pour Europe 1. En métropole, un hommage national sera rendu demain aux trois policiers tués dans un accident de la circulation à Villeneuve-d'Ascq, après avoir été percuté par une voiture dont le conducteur était alcoolisé et sous l'emprise du cannabis. Emmanuel Macron se rendra à cette occasion au commissariat de Roubaix où étaient affectés les trois jeunes policiers qui étaient âgés de 24 et 25 ans. Au Sénat, lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il travaillait avec le garde des Sceaux pour durcir les sanctions contre les personnes coupables de ce type de délit. Et Gérald Darmanin a qualifié le conducteur fautif d'assassin.
Cet assassin, celui qui était dans la voiture averse, parce qu'il faut utiliser les mots qui comptent, a tué non seulement trois destins, mais a blessé l'intégralité de la police nationale. Trop de chauffards, trop d'assassins tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Nous travaillons avec le garde des Sceaux. Nous avons proposé le retrait des 12 points pour ceux qui consomment sous stupéfiants, c'est une mesure réglementaire. Le garde des Sceaux a proposé de renommer cet homicide comme un homicide routier, c'est attendu. Je peux vous assurer que sous l'autorité de la Première ministre, et en espérant que d'autres drames sont évités par le travail que font les policiers et les gendarmes tous les jours sur les routes pour éviter que ces chauffards ne continuent à tuer, nous sommes à disposition du Parlement et du Sénat et de vous-même pour pouvoir travailler en ce sens en la mémoire de ces trois jeunes policiers.
Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a évoqué ces violences, notamment cette mort des trois policiers, mais aussi l'assassinat d'une infirmière au CHU de Reims. Et il a déploré ces violences contre des agents de l'État et dénoncé ce qu'il a appelé la décivilisation de la société. À propos de la mort de cette infirmière à Reims, son agresseur présumé a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Présenté comme souffrant de troubles psychiatriques, il a tué l'infirmière à l'arme blanche. Le procureur de la République de Reims a apporté des précisions sur sa personnalité et sur ce qui a motivé son geste. Clotilde Dumais pour Europe 1.
Ce célibataire de 59 ans fait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985. Il a été diagnostiqué schizophrène et paranoïaque et a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Il est également placé sous curatelle renforcée depuis 25 ans. Et les premiers éléments de l'enquête montrent d'ailleurs des divergences, d'après le procureur de Reims, entre la curatrice et le psychiatre de l'agresseur.
La mandataire a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022 et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis 2 ans, faisant des signalements non suivis d'effets selon elle, précisant que la mère de l'intéressé, qui n'a pu être entendue, avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Le psychiatre qui le suit depuis 2017 a également été entendu et a indiqué aux enquêteurs que, selon lui, il n'y avait pas eu de rupture de traitement ces dernières années ni même ces derniers mois, qu'il ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte et estimait son patient stabilisé.
Le suspect devait venir tous les jours à l'hôpital pour prendre ses cachets, sauf le week-end, mais des médicaments non pris ont été retrouvés sur lui lors de son interpellation et à son domicile.
Il est 11h55, la dernière pause de ce journal avant de voir avec Frédéric Joncheret l'actualité sportive.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Le 29 mai, vide-grenier au marché municipal de Païta de 6h à midi. Ambiance musicale et bonne humeur garantie. Réservation stand au 86 86 68.
Vous avez une petite fringale? Vous avez une grosse fringale? Alors venez vite au Snack Ciné Café. Aussitôt commandé, aussitôt servi. Le Snack Ciné Café vous propose sa nouvelle carte. Sur place ou à emporter, avec le Snack Ciné Café, c'est copieux, c'est pratique et c'est pas cher. Ouvert du vendredi au dimanche, le Snack Ciné Café pour passer un moment vraiment sympa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Le tennis à la une de la page de sport aujourd'hui avec 6 Français toujours en lice pour intégrer le tableau principal de Roland-Garros, Frédéric.
Et ils étaient 12 la nuit dernière à tenter de franchir le deuxième tour des qualifications. Chez les messieurs, Lucas Pouille est passé en disposant du Taïwanais Tseng en 3-7, Geoffrey Blancano en dominant l'Italien Bonadio en 2-7 et Laurent Locolli en surclassant 3 manches le Japonais Watanuki. La réaction du finaliste des internationaux de Nouvelle-Calédonie, Laurent Locolli, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Il y a du mieux par rapport à hier, il y a du bon dans l'état d'esprit, il y a eu du bon dans le fait d'avoir voulu l'agresser, de refuser le fait que je me fasse puncher comme au premier set et en fait finalement j'ai réussi plus ou moins à inverser la tendance au deuxième et puis après toujours un petit peu ce drama avec moi où à 5-3 je mène 30-0, je me fais débreaker, bon ben parfois le tennis c'est pas toujours une ligne droite, parfois tu sors sans trop savoir pourquoi, mais en tout cas voilà, t'essayes de reprendre le chemin comme il faut et c'est ce que j'ai réussi à faire donc je suis content de ça.
Locolli jouera demain sa qualification pour le tableau principal face à l'Italien Coboli, 159e joueur mondial. Blancano face à l'Américain Nava, 238e à l'ATP. Et enfin Pouille face à l'Autrichien Rodionov, 134e joueur mondial.
Et côté dames, 3 métropolitaines poursuivent l'aventure parisienne.
Elsa Jacquemot s'est offert la Britannique Dart en 3 manches et jouera sa qualification face à la Suissesse Waltert. Alice Robb a sorti la Hongroise Jani en 2-7 et retrouvera la Tchèque Frufjirtova. Et enfin, Fiona Ferro a éliminé la Brésilienne Alves en 2 manches et se reposait à l'Australienne Forlis.
Et le tennis, c'est aussi Arthur Fils qui se hisse en quart de finale du tournoi de Lyon.
Le jeune Français s'est qualifié après la disqualification de son adversaire, le Suédois Michael Immer, qui a fracassé sa raquette contre la chaise de l'arbitre à la suite d'un litige avec ce dernier. Et alors qu'il venait de se faire breaker par le Français, Fils qui retrouvera en quart de finale le Canadien Félix Auger-Aliassime. Quant à Grégoire Barrère, il est tombé face à l'Américain Paul en 3-7, tout comme Adrian Manarino au deuxième tour de l'Open de Genève face au Biélorusse Ivashka.
Le cyclisme et Alberto Danese qui s'est imposé d'un boyau sur la 17e étape du Giro.
L'Italien de la formation DSM l'a emporté au sprint devant son compatriote Jonathan Milan et l'Australien Michael Matthews. Les trois hommes ont jeté leur vélo sur la ligne pour forcer la décision après 197 km sans aucune difficulté. Au général, le Gallois Geraint Thomas conserve sa tunique rose avec 18 secondes d'avance sur le Portugais João Almeida et 29 sur le Slovène Primoz Roglic, un trio qui va commencer à régler ses comptes dès la nuit prochaine avec la première des 3 étapes de montagne à venir.
Et on termine par l'info foot du jour. L'Inter Milan a décroché ce matin sa 9e Coupe d'Italie.
Les joueurs de Simone Inzaghi ont conservé leur trophée en battant en finale la Fiorentina 2-1 grâce à un doublé de l'Argentin Lautaro Martinez. C'est la Viola qui avait ouvert le score sur un but de Gonzalez dès la 3e minute. On signalera qu'en Angleterre, Manchester City, le futur adversaire adversaire de l'Inter en finale de la Ligue des Champions le 10 juin, n'a pu faire mieux ce matin qu'un nul, un but partout à Brighton lors de la 32e journée de Première Ligue. Et en Espagne, le Real Madrid l'a emporté sur le Rayo Vallecano 2 buts à 1 avec un but de Benzema, pendant que l'Espagnol Barcelone et l'Atlético de Madrid se sont neutralisés 3 buts partout. Griezmann a inscrit un but pour les Colchoneros. Le Real reprend la deuxième place à l'Atlético pour un petit point.